J'ai eu l'idée de faire ce flamme parpaing avec toi il y a longtemps. Et alors j'ai imaginé, je l'ai beaucoup imaginé, je l'ai beaucoup rêvé, je l'ai beaucoup fantasmé.
Ça, c'est mauvais, parce que c'est tellement dur d'être à la hauteur des fantasmes des autres.
C'est sûr, et de ses désirs aussi.
Ouais.
Ouais. Ouais. Et alors je l'ai toujours imaginé. Qu'on le ferait à table. J'avais imaginé poser l'enregistreur au beau milieu, comme ça. Après, je me suis posé la question, il y aurait peut-être trop de bruit, si, tu vois, poser les assiettes, les fourchettes, etc. Tout ça, c'est assez encombrant comme bruit pour la conversation, pour l'écoute confortable. Mais, alors aujourd'hui, j'avais aussi cette idée, quand je t'ai invité ici à la maison.
J'ai cru d'ailleurs qu'on ferait ça,
Ouais,
ouais.
je me suis dit, je vais poser l'enregistreur au beau milieu et puis on va le faire. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le faire avec toi. Je pense que c'est assez bienveillant parce que, tu sais, j'ai comment dire, une mémoire, ma toute première mémoire du cinéma tient à un énorme plaisir que je sentais avec les scènes de restaurant et les
Ouais.
scènes de gens à table qui parlent et qui s'entretiennent à table. Et les gens qui parlaient un peu la bouche pleine ou tu vois qui
Ouais.
finissaient de mâcher leur bout de viande et qui commençaient une phrase et le bout de viande
Ouais.
devenait un morceau en trop parce que la conversation se voulait fluide,
Mais c'est
etc.
cette idée qu'il mangeait vraiment en plus, non?
En plus,
Et pas parce
ouais.
que au cinéma maintenant on a l'impression que c'est un peu comme genre quand ils ferment leur voiture, ils tournent pas la clé forcément. Et
Exactement. Et donc il y a ce côté un peu d'être à table, un peu comme être au lit, confortable, bien, avec la personne, vachement intime quand même, de bouffer, de parler en même temps.
Ah, tu crois que du coup peut-être on se mettrait à parler parce qu'en fait tu parles forcément quand tu es à table à deux par exemple. C'est
Ah,
assez rare
pas forcément.
ouais enfin dans des gens qui se fréquentent pas tous les jours.
Ouais.
Le silence est rare. D'ailleurs on fait beaucoup de rendez-vous pour bouffer.
C'est sûr. Ouais, mais oui, c'est vrai, mais c'est très très orienté dans un sens, je sais pas. Alors que flamme parpaing, enfin l'idée de flamme parpaing, c'est que ça peut partir un peu dans tous les sens.
Ouais.
Donc c'est plutôt, à mon avis, ça se rapproche plus du dîner entre amis
Ouais, c'est
ou de
ça.
famille quand tout va bien.
Ouais. En même temps, c'est Tom Marioni, artiste conceptuel californien, là, enfin de San Francisco, qui disait The highest form of art is to have a beer with your friends. Et là, ça m'a toujours marqué parce que c'est le moment où moi j'ai découvert l'art conceptuel un peu dans. Cette idée qu'un énoncé puisse remplacer toute autre chose, enfin toute forme, etc. Mais il y a un vrai truc là-dedans, quoi. Enfin, il y a surtout un vrai truc dans cette phrase. D'ailleurs, lui, il recevait tous les mercredis. C'était un peu trié sur le volet. J'avais eu la chance d'y aller, mais c'était un peu trié sur le volet. Et du coup, il recevait chez lui. Et puis il y avait juste à boire, il y avait juste des gens. Mais c'était disséminé dans toute la maison. Donc en fait, tu te baladais et tu savais que tu avais des gens qui étaient trié sur le volet pour ça.
Ah, c'est un peu
Et
flippant en même
super.
temps.
Ouais,
Ouais.
alors ça c'était la partie flippante. Parce que du coup, pour moi, ce truc-là devait venir avec justement cette non-sélection. Mais en fait, ça le saoulait juste. Je crois que le fond, c'est que ça le saoulait juste d'avoir des sortes de jeunes artistes qui voulaient participer, tu vois, ou des gens qui étaient curieux de ce truc-là pour des choses qui étaient pour des mauvaises raisons et qui étaient celles de l'art et non pas celles de la vie.
Ouais.
Enfin, c'est comme ça que je me le suis raconté à cette époque-là, quoi.
C'était quand ça?
Wow, 1998.
Ah
Back in the
c'est bizarre de dire 1900,
days.
hein?
Ouais.
Je trouve ça hyper bizarre de dire 1900
C'est un
aujourd'hui.
peu bizarre, ouais.
Ouais.
En même temps, on continue à traduire, par exemple, les euros en francs sur les relevés de banque,
On le
là.
voit de moins en moins quand
Non,
même,
mais moi,
hein?
j'étais fasciné de voir qu'on continue à le mettre sur les relevés de banque,
Ah
quoi.
ouais,
Ça fait quand même longtemps, maintenant.
c'est sûr.
Enfin, tu vois, moi, j'étais fasciné de voir comment le combiné téléphonique pour iPhone était super à la mode il y a, je sais pas, un an ou deux. Vraiment le gadget de Noël, quoi.
Ouais.
Et c'est comme s'il y avait une sorte de. Je sais pas, c'est comme si le progrès venait avec. Un peu comme la plage, avec un ressac, comme ça. Avec le
Ouais.
retour. Ça avance comme ça un peu loin,
Ouais,
puis ça retire les galets, comme ça
ouais,
revient avec un petit retour de nostalgie.
ouais.
Et avant que la prochaine vague réavance, comme
Ouais.
ça et tout.
Tu vois la chose comme ça, toi?
Ouais, je vois
Ouais.
que, enfin, je vois cette idée que avec le progrès vient la nostalgie du temps d'avant. comme par contrepoint ou par réflexe, et ce qui n'empêche d'ailleurs pas du tout d'être dans le progrès. D'ailleurs, c'est plus une nostalgie des formes qu'une nostalgie forcément de l'époque ou de. Mais il y a un truc comme ça où j'ai l'impression que la nostalgie revient avec, quoi.
Mais tu penses pas que ça a toujours été comme ça, quelque part? Que le progrès est aussi à sa queue, quoi,
Si,
sa queue de
ouais.
comète.
Si, ça,
Ouais,
c'était pas juste sur maintenant que je disais
ouais,
ça, j'ai
ouais.
enfin,
Ouais. Ouais.
une impression générale.
Quand je suis allé à l'inauguration, au vernissage de ta dernière exposition dans ta galerie, et je t'ai vu parler d'une œuvre qui me plaît beaucoup et qui me tient à cœur, qui est Correction. Les corrections, où tu réaménages un peu l'espace urbain en éliminant le surplus, notamment des panneaux signalétiques.
Essentiellement d'ailleurs des panneaux dans ce projet-là.
Et tu expliquais, j'ai envie de dire abondamment, de A à Z, un peu les tenants et les aboutissants de ce projet, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que tu l'as mise en pratique, etc. Et les photos. Enfin, il y avait tout un discours et je t'ai écouté et je me suis posé la question pourquoi les artistes, en l'occurrence toi, là, dans cet exemple, pourquoi est-ce que les artistes parlent comme ça de leurs œuvres, tu vois? Si tu veux, pour le dire très clairement, qu'est-ce qui fait qu'un artiste parle comme ça de ses œuvres? Et pas un cordonnier de ses semelles, ou pas un boulanger de ses baguettes, ou un boucher de son. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une histoire qui va avec l'œuvre. Alors, du coup, c'est un point d'interrogation. Est-ce que l'œuvre, c'est aussi toi en train de l'expliquer? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois très bien. Alors, il y a beaucoup de trucs dans ta question. Il y a plein d'entrées, donc il y a forcément plein de réponses. Déjà, je pense que si tu parles avec un boulanger, et si tu prends le temps de parler de son pain, il y a des chances pour que ça dure aussi 10 minutes. Hein. Parce qu'il a plein de trucs à dire sur sa baguette et tout ça. C'est juste que l'ensemble du protocole n'est pas fait que son discours n'est pas une valeur ajoutée à son pain. Après, sur la question du fait que l'artiste est supposé. Du besoin qu'il a de verbaliser ce qu'il fait, je sais pas si c'est. Enfin, c'est assez compliqué cette chose-là parce que ça dépend énormément des artistes et puis ça dépend surtout. Cette verbalisation, elle dépend aussi vachement de ce que tu mets dans le travail et de à quel point tu le. De comment tu le racontes pour toi aussi. Moi, j'ai fait des pièces où j'ai pas grand-chose à en dire. J'ai rien à. Contrairement à celle-là où j'ai l'impression d'avoir non seulement des choses à expliquer, des choses que j'ai envie de dire sur ça. Par exemple, là, je viens de finir une plante en plastique morte, qui est vraiment, donc c'est assez pathétique, hein. C'est dans un coin de pièce, t'as un pot comme ça, puis t'as plante morte avec il y a quatre feuilles qui tiennent encore sur les branches, puis sinon t'as par terre de feuilles là sur la terre, tout ça, et tout est en résine, tout est faux, mais patiné, marron, etc. Assez précis et tout ça, c'est rien d'autre qu'une plante morte, mais plastique. J'ai l'impression que les raisons pour faire ça et ce que ça dit, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'émotion, tu vois, ou de permanence d'un instant T comme ça, juste avant que les dernières feuilles ne tombent. Mais je vais pas parler très longtemps de cette pièce-là, que je trouve finalement très simple dans ce qu'elle est. Sur les corrections, c'est plus qu'en fait ce que le. Déjà, beaucoup de gens ne voyaient pas ce qui se jouait. Juste pour décrire les corrections, c'est quand même parce que tu sais ce que c'est, puisqu'on en a fait ensemble dans ce super moment-là avec Julie pour l'expo, Le chat et dans la forêt. Mais en fait, du coup, la monstration de cette chose-là, c'est-à-dire le avant-après, le prélèvement du poteau et son manque et le fait qu'à côté il y ait le poteau, donc qui joue aussi avec tout ce truc de l'art conceptuel du document comme preuve et de l'existant et tout ça, beaucoup de gens voyaient pas très, ont pas très bien vu ce truc-là. Beaucoup de gens ne voyaient pas le poteau, etc. Donc c'était important de décrire ces choses-là aux gens qui me posaient la question de qu'est-ce qui se joue? Comme si, et là on me posait beaucoup la question de qu'est-ce qui se passe dans ce truc. Mais c'est aussi qu'en fait, pour moi, ce geste-là, il est fort parce que Il y a un truc de simplification du paysage qui est évident. On enlève un poteau, mais tous les signes restent en place. Et donc, du coup, ce truc-là, il n'y a pas de. Mais ce qui se joue là-dedans, c'est le fait que c'est un geste illégal et négatif opposé à une sorte de bienveillance, quoi. Et donc, c'est cette sorte d'ambiguïté-là que ça m'intéresse de raconter. Et c'est-à-dire que ça me permet d'arriver jusqu'au point où, dans un monde très polarisé sur le bien et le mal et cette catégorisation extrêmement confortable de ça, bah là il y a un geste qui est les deux, et qui est ni l'un ni l'autre, ou qui est les deux. Et d'ailleurs ça revient un peu à mes amis Clément de Gaulé-Jacques et Fabrice Guyot qui avaient inventé ce fameux concept des forfaits du bien, que je trouve très beau, très joliment dit, et qui joue avec ça, avec cette. Donc voilà, donc c'est pour ça que. À ce moment-là, en tout cas, ce vernissage-là, et puis aussi dans les différentes interviews autour de ce projet-là, j'avais envie de dire ça, envie de raconter ce truc-là, parce que c'est ça qui se joue.
Moi, j'ai beaucoup pensé à cette pièce, qui est peut-être pas une pièce que tu mettrais dans ton top 3, je sais pas si tu as un top 3 de tes pièces, ou je sais pas jusqu'à où tu es hyper confortable avec elle. Moi, je la trouve très forte et très emblématique en fait de tout ton travail. J'ai envie de dire que c'est bien que tu aies fait référence à ces forfaits du bien, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as un regard très meilleuriste, très bienveillant par rapport à la ville. Tu es quelqu'un, à mon avis, qui fait un peu de la ville son atelier quelque part, enfin, ou de sa. C'est ton. J'ai pas envie de dire terrain de chasse, mais c'est où tu chasses des idées, où tu vois des trucs à faire en fait, quelque part. Mais je pense que si on regarde un peu tous tes boulots, tous les travaux que tu assumes et qui sont sur ton site par exemple, ou qui sont en monstration sur Internet, dans ta galerie, c'est l'esprit correctif dans le bon sens du terme, pas correctif dans le sens brimade ou réprimande, ou, tu vois, mais dans le sens d'améliorer, tu vois, de meilleurisme en fait, dans un esprit plutôt positiviste, quoi, tu vois,
Alors,
de rendre la vie des gens meilleure, plus intéressante. Enfin, tu vois, un esprit.
Alors, je suis assez ambigu avec ça, parce que à la fois. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'être. Ce que je veux surtout pas, c'est de donner la leçon. C'est le truc d'apparaître comme donneur de leçons, ça m'intéresse absolument pas, parce qu'en plus, j'ai pas les capacités pour ça. Enfin, j'ai pas les capacités pour. Penser le monde suffisamment autrement pour que ça en devienne un truc qui se permette ce genre de position. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'être. Par contre, effectivement, alors, pas meilleurisme, c'est d'être force de proposition, c'est-à-dire de proposer quelque chose, c'est-à-dire de proposer une alternative, mais ça ne veut pas dire que dans les projets, il n'y a pas la proposition et sa critique en même temps. Et c'est le cas avec la concentration des services, qui est cet abribus-là, avec tout qui. Tous les services d'un coin de ville réunis dans un seul objet, il y a cette idée que c'est à la fois une bonne idée et c'est une idée terrible. C'est à la fois une proposition de simplification du paysage, d'ailleurs c'est un peu l'ancêtre des corrections dont on parlait tout à l'heure, hein. Et en même temps, c'est tout ce qui est de pire. Enfin, c'est là où on est déjà avec J.C. Decaux qui est partout et que effectivement c'est pareil d'attendre un bus à Porto ou à Londres ou à Paris parce que tu es sous le même objet et que. Et du coup, c'est une surrationalisation des espaces publics, et c'est ce qui empêche toute remise en question de l'espace public, etc. Donc, et du coup, je crois que c'est. J'entends ce truc meilleuriste, mais je suis pas là pour sauver le monde.
Oui, non,
tu
mais
vois?
je ne fais pas une lecture du tout urbaniste de la chose. Hein. Je pense que tu es
Mais même dans
clairement
l'intention,
anarchiste ou.
il y a un truc plus aussi, plus peut-être malgré tout, plus désabusé que ça aussi. Enfin. Mais ce qui est important, c'est de. Enfin, tu vois, c'est aussi le balcon additionnel, par exemple, tu vois, un balcon qui se greffe, accroché à un camion-grue. Ça draine à la fois toutes les utopies architecturales de la greffe, de l'extension, tout ça, qu'il y a énormément dans les années 70, 60, etc. Enfin, et en même temps, c'est l'ère du service, quoi. C'est un pauvre balcon fabriqué en résine, du plus pur style haussmannien, qui est quand même à Paris l'idée de la ville bourgeoise. Et puis ça bloque toute une portion de rue avec un camion en double fil sur ces vérins là, qui fait chier tout le monde pour le privilège de deux personnes. Et c'est super important que ce soit les deux, en fait. Il y a à la fois l'image poétique et son penchant techniciste qui soit finalement assez complexe et assez pénible. Et qui du coup en fait fait que J'espère qu'au moment où on se dit, ah tiens, c'est ça, il y a aussi. Ah ouais, mais. Merde, mais c'est ça aussi, en
Ouais,
fait.
ouais, ouais.
Et je crois que du coup, c'est ça que je cherche le plus, en fait, cette tension-là.
Dialectique entre le côté meilleurisme et puis un autre côté qui
Ouais, le.
l'envers du meilleurisme, quoi.
Ouais, et que c'est les deux à la fois.
Ouais.
Voilà. Que c'est pas l'un. C'est pas que l'un. Ou l'autre.
Ouais. Et la ville, ça serait quoi les deux à la fois alors, quelque part? Qu'est-ce que. Comment tu le. Quand j'ai dit que la ville pour toi, c'est. Enfin, j'ai dit un peu terrain de chasse, etc. T'es d'accord avec ça ou.
Ouais, bien sûr, alors après je me fais aussi par moi-même un peu enfermé là-dedans, on commence beaucoup à m'inviter pour des trucs en extérieur, sont là. Et c'est sûr que, en fait, du coup je me suis posé la question il n'y a pas longtemps de, mais pourquoi en fait, pourquoi je me suis presque spécialisé là-dedans malgré moi. Et en fait, je me suis souvenu que très tôt dans les projets, même les trucs que je faisais aux Beaux-Arts, ou même avant les Beaux-Arts, là, quand j'étais aux arts appliqués et tout, j'avais tendance à sortir les projets dans la rue. Je sais pas. En fait, ça devient effectivement du regard, c'est beaucoup voyager, du coup, le voyage, ça se fait par la flânerie, quoi. Tu pars d'un point, tu vas dans un autre, tu sais pas où tu vas, tu prends un bus pour aller en banlieue, tu reviens à pied. Enfin, donc, ce que tu regardes, c'est tout ce
Ouais.
qui fait la différence, tout ça. D'ailleurs, cette posture du touriste, elle n'est pas inintéressante, je trouve, sur à la fois l'hyper-acuité et l'hyper-distance, enfin la forme d'incompréhension, à la fois du fond et de la forme. Enfin, c'est une posture que je trouve pas inintéressante d'ailleurs, mais. Et donc, oui, donc, non, juste parce que du coup, je repensais à cette pièce quand j'avais été à Cuba, à peu près aussi en 98, 1900. Et j'avais vu, il y avait une grille dans la rue, une sorte de grille de parc, je crois. Et il y avait, sur cette grille, entre deux barreaux, il y avait une sorte de volute, un peu comme vraiment, ce truc un peu du décorum un peu classe, tu sais, mais en fer à béton. En fer à béton et soudé, comme ça. Il n'y en avait qu'une, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas son miroir. Hein. Souvent, ça va quand même par deux, ça fabrique tout ça, toute une ornementation qui finalement est assez dessinée, quoi. Et il y en avait une, quoi. Et en fait, je crois que ça a été une image hyper fondatrice. Je me suis toujours demandé qui avait fait ça. Ça sent, en plus, Cuba est bourré d'initiatives individuelles, aussi dans l'espace public, de comment tu crées une enseigne. Si tu vends des chaussures, tu cloues une chaussure sur ta porte et tout le monde sait qu'il y a un chausseur ici qui va réparer ta chaussure. Enfin. Mais du coup, il y a eu ce truc-là, enfin, ce geste-là. Et du coup, qui est beaucoup le geste de. Je trouve ça hyper. Alors, je me suis complètement raconté un truc qui n'existe pas, mais j'ai vu cette sorte de personne venir et faire ce mini décorum. Avec, en plus,
Ah,
dans un
tu l'as vu
endroit.
faire?
Non, non, je ne l'ai pas vu faire.
Ah,
J'ai vu,
d'accord.
je me suis
Ah,
raconté.
d'accord, ok.
Et je me suis raconté, du coup, cet individu qui mettait cet effort, cette énergie, voire cet argent, même si c'est assez minime, pour augmenter, tu vois, pour augmenter le statut des choses autour de lui, quoi. Et du coup, je sais pas, ça m'a.
C'est fou comme je ressens. Je ressens, j'imagine à quel point ça a pu te marquer, ça, parce que je trouve que c'est un exemple hyper. Ouais, je l'imagine bien comme un truc fondateur dans ta pratique, en fait, je le vois très bien.
Ouais, j'ai même refait ce geste parce que j'ai
Ouais.
mis des volutes sur des barrières Vauban que j'ai laissées aussi. Donc j'ai vraiment copié-collé ce geste dans une réalité parisienne. Je sais pas du tout si ça a marché. Enfin, d'ailleurs, je pense que j'ai fait une erreur parce que du coup, moi, j'avais à l'inverse, j'avais composé justement avec tout ce truc du miroir, ce truc de la symétrie des choses qu'on retrouve dans toutes les grilles. Alors qu'en fait, là, ce qui était beau, c'était ce geste
Ouais,
unique.
ouais,
Et
ouais.
en parlant
Comme
là, je le
un.
comprends aujourd'hui que ce qui est beau, c'est ce truc inachevé aussi.
Ouais.
Cette
Un truc un
absence.
peu greffé de.
Ouais.
Ouais.
Et puis cette absence totale d'ampleur, et en même temps, il y a quand même toute la beauté du geste sans qu'il y ait le décorum entier, en
Ouais.
fait.
En fait, le décor en entier, il est là déjà,
Voilà.
juste avec ça, juste avec le démarrage du truc, quoi.
Et qu'en même temps, tout le doute de qu'est-ce que c'est que cette démarche de ne faire que ça, c'est ça qui est aussi hyper
Ouais,
intéressant.
ouais.
Ça, tu
De
regardes
s'arrêter là,
ça.
tu veux dire.
Oui,
Ouais.
de ne faire que ça.
Ouais,
C'est-à-dire,
ouais.
en fait, Est-ce que c'est suffisant
Tu recherches ça, toi?
À quel niveau? Recherche quoi?
De s'arrêter à un point où le reste devient accessoire et l'idée, la puissance de l'idée est déjà contenue dans le démarrage. Elle n'a pas besoin de se compléter, d'aller au-delà. Et aller au-delà, c'est trahir, si tu veux, c'est un bien grand mot, mais c'est de parachever quelque chose qui est déjà achevé, en fait.
Bah, en fait, c'est vachement dur de savoir quand tu t'arrêtes dans ces choses-là. Et le truc, c'est que moi, je crois que j'ai lutté longtemps avec. Ça revient un peu à ta question de tout à l'heure, avec une sorte de besoin de pédagogie. En fait, c'est marrant parce que moi, je me pose souvent la question de savoir à qui les gens pensent quand ils travaillent. Beaucoup de gens, mais aussi beaucoup les artistes, à qui tu penses, quoi. D'ailleurs, c'est pas toujours la même personne, ça peut changer suivant les moments et les pièces, etc. Mais moi, j'ai toujours énormément pensé à cette personne qui connaît rien à l'art, qui débarque au musée, à la galerie, ailleurs. Après, on peut discuter de pas n'importe qui débarque au musée, à la galerie, etc. Mais peu importe, une galerie étant un endroit malgré tout gratuit pour voir de l'art, même s'il y a tous les codes qui empêchent d'y aller, etc. Et je me dis, qu'est-ce que je lui donne? Et que j'ai toujours voulu donner beaucoup de clés pour raconter les choses. Parce que moi, le problème que j'ai souvent, c'est que comme j'ai beaucoup fait d'interventions en extérieur, il faut d'ailleurs pas tout le temps, des fois ça revient pas. Le spécialiste avec Simon Boutevin, ça revient pas. Mais comment tu le fais revenir dans un espace d'exposition? Et ça a toujours. Quel est le degré d'artificialité et de décalage entre ce qu'on a fait à Vitry, ensemble, les corrections, et la façon de montrer à la galerie? Et qu'est-ce
Bah
que.
parfois c'est insurmontable, je pense.
Parfois, c'est
Je
insurmontable.
pense, hein. Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas exposables dans le contexte d'un musée ou d'une galerie, je pense.
Pour autant, par exemple, les corrections que moi j'avais jamais imaginées, puisque pour moi c'était des sculptures publiques, d'ailleurs la plupart sont encore là, existantes, puisque certaines je les ai photographiées 3 ans après. Mais en fait, là, ça a marché dans cette expo. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont vu. Enfin, déjà, il y avait un truc assez beau, tous ces poteaux, donc ça c'était une sorte de trick, un peu d'exposition, de séduction, de trucs. Mais en fait, je pense que les gens ont compris le projet, et je pense que en fait, ça m'a permis de parler aussi de ce projet, quoi. Mais du coup, il y a deux endroits où ça se joue, quoi.
C'est sûr. Et pour toi, c'est l'important, l'espace le plus important, c'est qu'est-ce qui te...
Mais je crois qu'en fait, j'ai pas d'espace privilégié. J'en ai pas. J'ai pas de. En fait, pour moi, c'est comme. Je sais pas, on parlait au début d'une discussion. Il y a forcément un truc où du décalage, comme quand tu racontes. Quand tu racontes quelque chose. Mais toi, en plus, tu es un incroyable conteur d'histoire. C'est hyper fort aussi. Tu me racontes un truc et moi, ça me fait kiffer, quoi. Enfin, je suis dedans et tout. Puis tu racontes avec ta manière, avec ton truc, avec tes cheminements. Puis j'aime voir où tu cabotines un peu, où tu fais, etc. Enfin, ce qui sont tous les réflexes d'un artiste qui. Tu vois, qui. Et du coup, c'est juste pas le même temps, mais d'une même chose. Donc, parce que des fois, ça marche pas. Enfin, tu peux raconter une histoire et en fait, ça ne dit pas l'intensité du truc, mais des fois, ça fait quand même bien marrer, ou ça touche. Ou ça, enfin, du coup, je pense que c'est la même chose. C'est pas, il n'y a pas de truc plus. Enfin, de moment plus privilégié que l'autre, parce que c'est juste pas les mêmes moments, quoi. C'est deux stades.
Ouais. Mais ces deux stades t'intéressent. C'est-à-dire que tu te vois pas, par exemple, être dans l'ombre comme une sorte d'intervenant urbain. Qui fait des corrections, qui correctionne l'urbain et qui renvoie, si tu veux, une image qui est du binomial ou qui est double, comme tu disais, l'histoire que la correction est positive, mais aussi elle peut entraîner des contraintes négatives ou encombrantes ou je ne sais quoi.
Oui, c'est un peu comme du
De
vol de
rester
métal,
juste dans
hein.
ça, pour toi, c'est quelque chose qui serait pas concevable. Tu vois cette activité-là comme une activité artistique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors oui, moi j'ai pas de problème. Je pense que j'ai pas passé énormément de temps à me poser cette question. Enfin, moi je suis un artiste parce que de toute façon je cotise à la maison des artistes dans ce monde-là. Voilà, j'ai l'impression d'être un artiste, c'est mon taf. Enfin, et ça me permet, en plus, c'est un terme suffisamment ouvert pour me permettre d'être absolument ce que je veux et faire ce que je veux. Enfin, tu vois, j'ai pas.
Tu te poses pas ces
Oh,
questions-là, en
bah,
fait.
je me les suis posées pas mal au début. Aujourd'hui, en fait, je crois que je balaye ça un peu parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai l'impression que je suis les deux. Je suis cette personne qui fait les corrections et que ces corrections-là, elles existent. Ce qui est important dans mon boulot, c'est que les choses sont vraiment faites. Enfin, c'est Roscoe qui disait, c'est sur cette pièce avec les oranges là, qui mettait en face du MoMA.
Une de toutes premières d'ailleurs.
Ouais, des très très des vraiment au début de son travail. C'est très beau cette pièce, cette composition d'oranges en face du MoMA, etc. Mais il disait, les oranges, elles sont consommées dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il livre des oranges fraîches aux gens et les gens les mangent. Et ça m'a toujours, même si c'est pas ce que je peux dire exactement sur mon travail, moi ça m'a. Les choses sont vraiment faites, quoi.
Tu
Et elles
penses que ouais,
existent.
tu penses qu'elles elles ne deviennent tu penses qu'elles deviennent vraiment utiles, tes corrections?
Je sais pas si la question de l'utilité est si. En fait, pour être tout à fait honnête, et tu pourrais d'ailleurs répondre à cette question, puisque tu étais là, tu as vu. Je pense que personne ne les voit.
Personne ne les voit, ouais.
Je
Enfin,
pense que juste
je
ça.
pense que ce qui est aussi assez intéressant dans ce travail, c'est que elle passe inaperçue, quoi.
Totalement. Totalement. Alors après, si, parce que certaines, notamment celles qu'on a fait là où. Parce que ce qui est marrant, c'est que moi je garde tous les signes. C'est-à-dire que je ne dis pas. Et celle qui était belle, c'était celle qui était complètement pléonastique là. Où tu avais le nouveau panneau rue Jean Perrin et l'ancien panneau rue Jean Perrin. Et qu'on a connecté l'un à l'autre pour garder le panneau et qu'on a enlevé le poteau qui était sous le vieux Jean Perrin. Et qu'on a laissé ce pléonasme, on a laissé ce bégaiement directionnel. Et ça, éventuellement, les gens pourront se dire, ah, tiens, c'est bizarre qu'on ait fait une extension pour garder ce vieux panneau qui dit déjà ce qu'il y a sur le panneau d'à côté. Sur celui-là, c'est possible. Mais sinon, faut déjà être dans une capacité d'attention assez. Effectivement, on est saturé de signes, mais on va prélever les signes dont on a besoin au moment où on les voit. C'est-à-dire que si tu es en voiture, tu vas repérer que là, c'est un sens interdit, que tu ferais pas forcément si tu es à pied. Tu vois, les potelés, faut vraiment être en poussette pour noter à quel point il y en a. En fait, tu notes ce avec quoi tu dois composer et ce dont tu as besoin. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose dans le sens où, je sais pas, un coin de ville à Paris, tu le reconnais dans son ensemble, un espace blanc d'exposition. Quand tu rentres dans une expo, c'est toujours un peu ce truc-là. Une expo réussie, c'est une expo où dès que tu rentres, tu as une sorte de petit picotement d'excitation, quoi. Alors même de voir si les pièces sont bien et tout ça. Une sorte d'agencement comme ça qui marche.
Ouais. Tu penses que la chose se joue dès l'entrée?
Non, pas à ce point-là, mais qu'il y a cette j'ai souvenir en tout cas d'une excitation dès l'entrée. Et quand tu es excité dès l'entrée, parfois d'ailleurs tu as fabriqué cette excitation avant, ça dépend vachement si tu es en forme ou pas aussi, là, quand même. Cette
C'est sûr,
appréciation
c'est
de
sûr.
l'art,
Ah, ça dépend de plein de trucs, c'est sûr.
c'est vraiment assez fascinant d'ailleurs. Mais.
Tu parles d'une expo de quelqu'un d'autre ou de ton expo
Non,
là?
d'expo de quelqu'un d'autre. Hein.
Tu
Moi,
vois?
je peux pas avoir ça pour mes expos. Hein. J'ai pas
Ce recul.
cette surprise-là.
Mais par rapport à ton travail, j'ai juste y a un autre truc que j'aimerais te dire, qui est, enfin, c'est peut-être un peu un truc des notions clés, des trucs comme ça qui me sont revenus plusieurs fois, et qui est, j'ai toujours eu l'impression que tu travaillais pour, quand tu parlais des autres, et que tu réfléchis beaucoup à comment tu mets en place une exposition, parce que tu t'intéresses à cette lecture justement de la personne que tu connais pas et qui peut être X ou Y, enfin voilà, toute classe sociale confondue et tout parcours artistique ou non confondu, genre, etc. Et je me suis toujours, moi, dit, depuis que je connais ton travail, que les gens sont là, mais ils sont pas sont pas présents physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles pas avec les gens, mais tu travailles pour les gens. Il y a ce côté un peu de... Ouais, moi, pour quelqu'un qui est quand même vachement solaire, qui dégage quelque chose de hyper lumineux, présent, enfin, dans ma relation avec toi, j'ai un peu cette impression-là. Ton travail, c'est plutôt l'autre versant, même si l'humour que tu dégages est quand même quelque chose...
Ce serait quoi l'autre versant alors du coup?
Un versant plutôt absent, présent, mais dans l'absence, tu vois.
En
Justement,
creux
c'est...
quoi, l'homme en
En
creux.
creux, ouais, je vois beaucoup le personnage qui ne sort que le soir, tu vois, et qui va faire son truc, mais dans un objectif qui est quand même relationnel, d'être là avec, il le fait pour les autres, ou en ayant les autres comme une sorte de référence. Il fait partie, si tu veux, il fait partie de la communauté, mais son action se fait un peu en dehors d'elle, ou à des heures où en fait il y a vraiment cette idée, moi, à mon avis, qui se dégage de ton travail comme quelqu'un qui réfléchit, qui est absolument dans un esprit communautaire, tu vois. Mais qui en même temps en fait pas vraiment partie, ou qui s'en détache quelque part, tu vois.
Ah, c'est
Et c'est ce
marrant.
côté en creux, moi, qui me fascine aussi beaucoup. C'est-à-dire que tu serais absolument... Il n'y a pas beaucoup de trucs hyper abstraits dans ton travail, en fait, tu vois,
Non, très
où...
peu. Mais je pense que c'est effectivement une des. J'allais dire ça aussi tout à l'heure quand tu as démarré sur le fait que. En fait, tous les objets de mon travail sont identifiables. En fait, il y a très peu d'inventions, de formes ou de. Le bateau qui flotte, enfin, qui a l'air de couler mais qui continue de fonctionner, c'est un vrai bateau. Le container, c'est un vrai container, fabriqué. Comme... Et je pense qu'il y a peut-être, du coup, c'est peut-être ça que j'entends dans le. Cette familiarité-là, finalement, aussi des objets, ce fait que ce soit nos objets à nous,
Ouais,
à nous tous.
c'est pour ça que je te disais que tu ne cesses d'être rattaché à la communauté, justement, par ça aussi. Je pense, ouais, voilà. Même les pavés anatomiques, ou je sais pas comment,
Préhensile,
ouais, voilà.
qui
Ou
font son.
l'horloge aussi.
Ouais, mais tout
C'est
ça,
une
ça.
vraie horloge, enfin voilà, tu vois, tu reprends les principes de l'horloge sur...
Ouais, même les esthétiques et tout
Ouais.
ça. Là, pour le coup, ça reprend aussi vraiment les esthétiques de la révolution industrielle. Enfin,
Donc il y a ce souci de
derrière.
raccordement, de rattachement à l'histoire de tes acolytes, quoi.
Ouais. Mais c'est
De tes frères et sœurs.
évident que je me sens dans des histoires, en fait. Ça, d'ailleurs, je peux être passé pour ça et tout ça, j'ai pas de. Effectivement, il n'y a pas énormément d'abstraction.
Ce serait quoi pour toi d'aller vers ça?
D'aller vers l'abstraction.
Ouais.
Écoute, je pense que. En fait, bizarrement, je pense que j'y viens de plus en plus avec l'âge, ou avec le temps, ou avec je sais pas quoi, avec cette. Même dans le dessin, d'accepter de faire des dessins qui soient plus psychologiques, ou plus. C'est ce qui garde cette légèreté-là, mais presque des trucs plus de l'ordre de. D'une émotion brute, quoi. Tu vois, Par exemple, juste ce truc de, je sais pas moi, de dessiner une brosse à dents avec le dentifrice là, et puis de penser à ce. Alors, la formulation était en anglais, mais c'était de dire. This feeling to know exactly what you should have said and regret so much not to. Bah, tu vois, moi j'ai l'impression de vivre tout le temps ce truc de. Tu vas te laver le matin, machin, tu vas te laver les dents, puis là tu repenses un peu la soirée de la veille, putain, mais là j'aurais trop dû dire ça. Tu regrettes tellement parce que tu sais que ça ne reviendra jamais, ce moment-là. Et c'est pas qu'un truc de répartie, justement, pour briller socialement ou quoi. C'est vraiment peut-être d'avoir raté. Et là, d'avoir tellement envie de le dire. Enfin. Et du coup, en fait, c'est d'autoriser ces petites pensées-là à venir dans le travail aussi.
Mais dans un esprit réparateur, c'est-à-dire que quelque part le dessin répare,
Non, le dessin, il nomme.
complète, bouche.
Je sais pas ça, je sais pas. Je pense pas tellement à cette réparation possible.
Parce que
Je crois pas cette vertu-là de l'art pour moi. En tout cas, après que ça. Je sais pas, toi-même, est-ce que t'as l'impression que quand tu bosses, ça répare des choses, ça corrige?
Je pense qu'il y a, il y a peut-être un fantasme lié à ça, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un fantasme lié à ça. Un retour en arrière et à une correction. Je viens de me souvenir d'un ami anglais qui a vécu à Lisbonne il y a quelques années. J'y vivais aussi. On s'est rencontrés justement parce qu'on y habitait en même temps. Et on avait des amis en commun. Et il est chercheur en biologie, je crois, moléculaire ou je ne sais quoi. Il travaille dans un laboratoire assez prestigieux à Lisbonne. Et il s'intéressait à l'époque, et je pense qu'il continue toujours à s'intéresser au processus de cicatrisation. Et il avait constaté que à l'état embryonnaire, la cicatrisation est plus parfaite qu'à l'état non embryonnaire, c'est-à-dire une fois que tu es né, ton système immunitaire tend à trop corriger, à trop zéler sur l'accident. Et c'est pour ça que tu as des cicatrices en fait. La cicatrice, c'est le signe, la marque, la trace d'un trop de zèle de ton système immunitaire qui va plein gaz, tu vois, et qui.
Et qui va trop quoi en
Et
fait,
qui,
presque.
ouais, voilà, qui zèle trop sur toi et qui, en voulant trop faire, laisse sa marque, la trace d'un trop. Et donc son travail était de comprendre pourquoi cela.
Une amie qui a eu sa petite fille qui a été brûlée, elle était hier. En fait. Ce qui est marrant, c'est que c'est les doubles mouvements. C'est-à-dire qu'à la fois, comme elle est vraiment très jeune, ça brûle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Mais en fait, comme elle a des capacités réparatrices décuplées, en fait, ça se répare. Et c'est assez marrant cette vulnérabilité et cette réparation, les
Ouais,
deux étant accrues, en fait, les deux
oui,
étant
ouais.
surdimensionnées.
Ouais. Et je sais pas, alors pour les brûlures, je sais pas, lui je pense que c'était vraiment. Lui, il travaillait sur les mouches du vinaigre, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ont apparemment, je crois, un système immunitaire ou un code ADN très semblable au nôtre. Donc, enfin, ses expériences étaient avec les mouches du vinaigre, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, étaient très parlantes en fait de ce qui pouvait se passer aussi à notre échelle. Est-ce que ce qu'on fait en fait. N'est pas justement associé à une idée de vouloir réparer quelque chose, de vouloir corriger quelque chose, tu vois.
Je sais pas, peut-être que la réponse à ça, ce serait dans le fait que on prend quand même ce temps pour le faire. Tu vois, c'est-à-dire que il y a cette urgence de le faire malgré tout. Ça nous prend du temps, ça nous prend parfois de l'argent. Pour le coup, c'est pas forcément d'ailleurs dans une économie. C'est-à-dire que parfois tu fais des trucs qui sont à perte et tout ça. Donc peut-être que cette nécessité-là, elle indique cette réparation. Enfin, elle indique ce besoin. Que ce besoin, il est peut-être de l'ordre de la réparation. Mais je sais pas, c'est sans doute aussi une lecture un peu trop. Ça doit être un des ingrédients, voilà. C'est
Un
vrai que c'est.
peu christique, tu veux dire,
Un peu.
chrétienne.
Oui, c'est ça, peut-être un peu. Un peu. Je cherche le terme là. Mais en même temps, c'est vrai qu'on passe notre vie à vivre avec des regrets, des choses qu'on a fait, les ratages et les trucs, et que. De toute façon, il faut trouver les moyens d'apaiser ça. Je ne sais pas si c'est ni le rôle de l'art pour soi, ou même quand tu le donnes aux autres, si c'est ça que tu fabriques, ça me paraît pas du tout ça. Mais c'est possible que ce soit aussi ça, en tout cas, peut-être.
Tu veux qu'on développe cette histoire d'abstraction? Moi, ça, j'aimerais bien. Je
Oui,
suis assez
si tu
curieux
veux.
de. C'est quoi les bulles dans ta tête quand tu dis abstraction? Qu'est-ce qui te motive à dire ça?
En fait,
Que ton travail va vers l'abstraction?
c'est qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans mon travail à développer tout le discours qui va avec, c'est-à-dire à faire des choses
pour une raison, pour sa contradiction, pour tout ça, en fait, et finalement a très peu, peut-être m'autorisé, mais je ne sais pas si c'est par pour quelle raison, je n'ose pas autoriser ça, mais à faire juste un geste, quoi, tu vois, se dire, par exemple, c'est pas un plexi sur ce papier-là, c'est juste le carbeau, et que juste ce truc-là me touche suffisamment pour que je le propose. Et en fait, le fait que je n'arrive pas à raconter le geste dans qu'est-ce qu'il a généré, qu'est-ce qu'il engendre, qu'est tout le discours, par exemple, des corrections, tu vois, c'est un truc très, finalement très construit autour de pourquoi ce geste. Du coup, je ne me suis jamais autorisé à suivre cette voie, notamment dans le bricolage à l'atelier. Tu vois, je sais pas, plein de fois, même tu vois juste une chute de bois qui a eu plusieurs angles, mais tu la trouves juste super belle, et puis tu commences à collectionner les chutes et tout, mais tout ce qui est d'ailleurs un peu morphogène dans la fabrication des choses et tout ça, qui est quelque chose de très beau et tout ça, mais je me suis jamais autorisé à suivre ce chemin-là. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que j'arriverai plus facilement à m'autoriser ça. Et d'ailleurs, dans les portraits, même s'il y a, qui était aussi à l'exposition, là, il y a évidemment toute une construction aussi, puisque ça provient des encombrants, toute cette question de la sculpture publique, etc. Mais pour la première fois, je me suis aussi autorisé à des matériaux, des confrontations de matériaux. Alors, avec un truc qui m'a aidé à faire ça, c'est une sorte de protocole. Je prends ces formes, je prends les formes des bornes dans la rue qui font les socles, parce que les bornes anti-stationnement, c'est aussi des socles dans l'espace public. Donc, il y a plein de constructions comme ça. Le fait que tout le traitement des sculptures est venu des traitements de l'acier dans l'espace public, je sais pas, le jaune de la poste, la rouille, la peinture de bagnole, etc. etc. Mais le truc, c'est que là, ce protocole, en tout cas, ce schéma organisationnel de arriver finalement à de l'aléatoire total et à une surprise incroyable des formes et des confrontations de matériaux, etc. Ce qui fait que tu avais des sculptures qui faisaient très qui étaient très presque, je sais pas, du fasciste italienne ou en tout cas le socle était un peu fasciste italien et la sculpture dessus très très je sais pas, Boccioni ou futurisme etc. Et d'autres qui étaient complètement presque plus tradis, bizarres. En fait, c'est d'autoriser ce moment aussi où le résultat t'échappe, quoi. Et du coup, il y a un plaisir du faire, hein. Un plaisir des formes, un plaisir des couleurs. Parce que quand tu choisis une peinture de bagnole, moi je suis allé voir le mec, je lui ai dit la prochaine fois que tu fais une bagnole, tu le peins cette couleur-là. Mais au fond, il y a des fois où j'ai dû choisir. Pourquoi telle couleur plutôt qu'une autre, etc. Et en fait, cette question du choix, elle était abyssale pour moi. Martin Creed, d'ailleurs, il répond super bien à ça dans son travail. C'est-à-dire, toute la logique de son travail, c'est de ne pas choisir. Pourquoi choisir une couleur? Bah, du coup, je fais toutes les couleurs. Vu que je ne sais pas quel pinceau utiliser, bah, j'achète mon stock avec toutes mes brosses et je fais une trace du gros pinceau, une trace du plus moyen, une trace du petit. C'est un truc de dire que le monde est un énorme bordel et que lui, il organise ce bordel, mais il décide pas de sélectionner l'intérieur de ce bordel trop. Parce que c'était. Voilà, et parce qu'il y avait ce truc très. Très compliqué pour moi de. Tiens, ça pourrait être bleu, ça pourrait être vert, ça pourrait être jaune. Pourquoi je choisirais du bleu, quoi? Et d'arriver jusqu'au truc de me dire, mais en fait, c'est pas grave. J'ai le droit de choisir.
Ah, et donc l'abstraction pour toi, si j'en reviens à la question, c'est te permettre de choisir.
Alors, je me suis un peu éloigné de la question d'abstraction, mais c'est la question de.
Non, mais ouais. Oui, j'entends bien. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, un peu. Enfin, en tout cas, c'est ce truc de pas tout contrôler, quoi. Et de. Donc, c'est pas du tout le discours sur l'abstraction, ça, hein, mais. Dans mon processus à moi, puisque c'était la question, c'est déjà une étape super forte, quoi. Et que. Mais. Et je sais pas, bizarrement, les trucs me touchent, j'arrive pas du tout à me souvenir du nom du peintre, mais. Oh là là, peintre abstrait, c'est pas Bridget Riley, mais.
Américain?
Peut-être. Enfin bref, ou en tout cas, il y a une forme noire sur un tableau blanc, je crois, et tout. Et puis, dans son catalogue, tu as juste une petite photo d'une entrée de grand, je crois, et qu'en fait la forme noire qu'il a prise, c'est de ce noir de l'ouverture des portes,
tu vois,
ouais, un truc vraiment de, et ça m'a vachement finalement ça me touche beaucoup plus une fois je sais que c'est ce noir là, cette forme de noir qui est là, quoi.
Ouais,
et,
je vois parfaitement.
Et c'est comme si c'est ça me... Mais tu vois, c'est toujours un peu ça qui m'intéresse dans le boulot, c'est comment tu y repenses. Enfin, tu vois, et le fond du truc, c'est un peu la découverte de ça. C'était vachement avec, tu sais, González Torres aussi, Perfect Lovers. Moi, j'ai découvert là, en regardant ça aussi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces deux horloges? C'est quoi, tu vois, t'as deux fils électriques qui sont torsadés ensemble avec les deux ampoules allumées. J'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et après, du coup, j'ai acheté son catalogue, j'ai lu, et puis tu vois qu'il dit que les horloges vont se décaler et qu'il y a une ampoule qui va s'éteindre avant l'autre, etc. Et ça s'appelle Perfect Lovers. Mais j'en ai chialé, quoi. Mais du coup, cette petite valeur ajoutée-là, là, de cette petite provenance d'un truc,
ouais,
d'un lien avec, ouais, tu vois, l'émotion, le réel, qui fait que
comme
c'est
si
là que ça me touche, quoi.
Ouais.
Pardon.
Ouais, comme si l'abstraction en revenait toujours au concret, au réel, quoi, de la vie ici-bas.
Mais c'est beaucoup
part.
Le cas, hein, les peintres abstraits, là, suisses et tout ça, enfin, ils sont très influencés par les logos, les
ouais,
trucs.
Ouais, c'est sûr. Mais toi, tu l'affirmes d'une façon assez belle, je trouve. C'est beau de dire ça, en fait, que ces figures un peu abstraites te touchent quand tu sais que, quelque part, elles proviennent d'une émotion, en fait, qui est bien réelle, quoi, ouais, qui est ressentie et qui a été retranscrite comme ça, mais... Et ouais, peut-être tout cela te touche d'autant plus parce que l'émotion a suivi ce processus de transformation jusqu'à devenir abstraite, si tu veux. Elle s'est autonome, mm-hmm, elle a gagné en autonomie, c'est-à-dire qu'elle existe en dehors de cette histoire, mais que si tu la couples à l'histoire, elle se charge en puissance.
Ouais. Cette charge
émotionnelle, quoi. Et ça c'est quelque chose qui te touche beaucoup.
Ah bah ouais évidemment, évidemment cette idée que c'est pas ouais, cette idée que comment tu repenses à des choses, quoi, enfin, tu vois, et qu'est-ce que ça a touché Et une fois de plus, c'est Roscoe qui dit ça très bien. Et moi, c'est d'ailleurs les meilleurs compliments que j'ai sur mon boulot. Des fois, c'est des gens là qui, à l'expo, m'ont dit « Putain, dis donc, depuis, j'arrête pas de regarder les bords anti-stationnement, c'est dingue. À quel point il y en a, le répertoire formel et tout. » Donc ça, c'est une façon très, pour le coup, très physique de repenser au travail. Et cette idée qu'effectivement, ce qui se joue, c'est pas juste ce que tu vois au moment de l'expo, mais comment tu y repenses. C'est ça qui est touchant, en fait, tout le temps. Et après, ça peut être des émotions très esthétiques ou des trucs très 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 fins, comme des petites histoires racontées, comme dans le cas de González Torres, mais évidemment que c'est cette dimension narrative là que moi j'aime particulièrement, quoi. Dis dans ce projet, il y a presque tout, parce que tu pars d'une idée, tu trouves le moyen de le produire, etc. Mais après, il y a toute la valeur ajoutée de ce que c'est que d'être des bons côtés de vivre en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet-là, juste ce dessin d'un bateau naufragé qui continue de fonctionner, après, tu rentres dans le réel. Après, c'est-à-dire que tu dois trouver le bateau. Et après, du coup, j'ai rencontré la propriétaire du bateau qui m'a raconté des super histoires. Enfin, ça appartenait à son mari qui est mort. Enfin, tu sais, il y a une charge émotive incroyable qu'elle a fini par me confier, mais je suis allé chez elle, elle m'a présenté ses enfants, puis finalement elle a fini par me le confier pour une nouvelle vie, tu vois. Après, il y a eu d'aller sur le chantier naval, de bosser pendant 3 semaines sur place, et de rencontrer du coup toute la communauté des marins, de rencontrer ce mec-là, le mec du chantier naval, qui est absolument incroyable, qui te raconte des histoires de fou, qui t'aide, enfin, tu vois, tu rends... Et après, t'as le moment où tu le fous à la baille, où ça fait une sorte de buzz tout bizarre, d'histoires locales, de trucs, enfin, tout le monde s'interroge, machin, etc. Puis après, le projet, il est exposé, puis il est vendu, donc ça, bon, c'est cool. Mais en fait, finalement, surtout, il est montré après dans une expo sur la Tamise. Donc après, il devait être devant la Tate Moderne. Et puis finalement, parce qu'il y a eu un naufrage 20 ans avant, il décide de le foutre à Canary Wharf. Puis moi j'étais là, merde, c'est con, j'aurais adoré être devant la Tate, machin. Puis en fait, il se trouve qu'il est allé à Canary Wharf devant le bâtiment des Lehman Brothers 2 jours après la faillite. Et donc ça fabrique une image, du coup la presse s'en empare, et du coup il y a une discussion où il me disait, mais c'est incroyable, comment vous êtes un artiste visionnaire parce que vous avez prévu la faille, que le système allait couler, etc. Et puis moi je dis, je pense que vous vous trompez de lecture parce que le bateau il coule pas, il continue à fonctionner, et tout ça. Donc je pense que c'est tout ça la métaphore, s'il devait y en avoir une. C'est génial d'être pris pour un artiste visionnaire, en plus pour un truc que tu as fait 2 ans avant. Enfin, puis après, il y a encore cette histoire de truc où je le mets sur mon site et sans faire même de pub pour mon site, le truc devient viral sur Internet. Et puis ça part dans tous les sens, des gens qui me proposent des pubs pour des compagnies d'assurance, des trucs. Enfin, c'est repris, ça détourne la campagne de Sarkozy, tu vois, c'est sur lemonde.fr où dès qu'il a leur chance de sa campagne, il est comme ça, tu sais, il y a la mer au fond, tu as des mecs qui ont incrusté mon bateau, en disant la France qui coule, enfin... En fait, ça m'a complètement échappé, quoi, et c'est devenu une sorte de truc. Donc, j'ai dit oui à tout, moi, n'importe quel magazine, n'importe quel journal. Enfin, tu vois, si t'as des quatrièmes de coups où t'as une tête de requin ouverte, Madonna, une meuf à poil, John Lennon et mon bateau, quoi, enfin, tu vois. Et ça part dans tous les sens. Donc, en fait, il y a dans ce projet-là, là où il est touchant, c'est que il a joué à plein de niveaux, à plein d'endroits. Et à travers le temps, sans compter que la relation avec le collectionneur, quand je l'ai rencontré, c'était un truc super fort aussi. Enfin, et du coup, ça a drainé plein d'histoires de vie, d'histoires du travail, puis du travail qui devient autonome après dans le monde, dans l'espace public qu'est le web et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'en parle avec... parce qu'en même temps, je continue à appeler la propriétaire du bateau. On se parle 2 fois par an, tu vois. On se donne des nouvelles, quoi. Donc en fait, c'est hyper chargé tout ça, quoi.
C'est marrant, tu dis la propriétaire du bateau.
Ouais, mais parce que oui, parce que c'est elle, ouais. Bon. Du coup, j'ai pas changé le nom du bateau. Quoique si, j'ai un peu triché, parce que normalement le bateau s'appelait Odinic. Et moi, j'ai appelé Love Love, parce que c'est le nom du bateau. Enfin, c'est cette catégorie de bateau-là, mais c'est comme si tu disais pas la Peugeot 104, tu lui donnais un petit nom. Le projet s'appellerait quand même 104. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça que j'en parle avec un peu de...
enthousiasme.
Mais c'est pareil, vraiment, pour le projet de déplacement du centre là, en Norvège aussi, j'en parle avec énormément de... Parce que ça a fabriqué des rencontres, des histoires incroyables. Et que c'est vraiment là, enfin, ce truc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de bosser à Naples en extérieur pour fabriquer les trucs et tout ça, c'est... C'est vraiment l'inverse de l'atelier d'artiste où tu produis dans ton atelier pour destiner des trucs au monde, etc. Il y a un moment où la fabrication même et ton statut social d'artiste, ils comptent dans la vie, quoi. Enfin, dans le tissu social, dans l'économie, dans le truc. Enfin, le moment où tu as un vrai rôle qui n'est pas juste un rôle de producteur. Le moment de production est aussi un moment incroyable, quoi. Et c'est pas souvent que ça se produit. Mais tu vois, par exemple, quand on a fait les corrections ensemble, c'était un chouette moment aussi, quoi.
Ouais, ouais.
Et pour le coup, on n'a rencontré personne, tu vois, mais...
On aurait pu.
On aurait complètement pu.
Il y a un autre projet qui m'a beaucoup touché aussi. Je pense qu'il n'est pas très, très ancien. C'est quand tu as fait cette résidence à Los Angeles où tu as meulé les escaliers.
Ah, ouais.
J'ai
ça aussi, ouais. J'ai des trémolos un peu dans la voix.
C'est beau cette idée aussi d'accélérer le temps, quoi.
Ouais, ouais, puis c'est aussi un geste, c'était marrant parce que c'est un geste de dégradation, tu vois, t'attaques des escaliers à la meuleuse et tout ça, mais juste pour fabriquer cette toute petite
cavité,
quoi, ce petit frottement du temps et des gens qui sont passés. Et il se trouve que c'est vraiment parce que Lynn Kinholz qui me recevait, c'était la deuxième femme de Ed Kinholz. Et de fait, c'est une femme qui a plein d'histoires, qui a connu le monde entier de l'art californien, mais aussi, je sais pas, Nikki de Saint-Phalle, Tingley, enfin, tous ces gens. Elle a encore tous ces gens-là qui viennent la voir, Frank Gehry qui vient bouffer chez elle en se plaignant, avec plein de trucs. Enfin, et en fait, c'est juste qu'elle a cette petite maison hyper belle, un peu dans la dans une des montagnes d'Hollywood, quoi. Et il y a du coup effectivement cette intervention-là hyper minimale et tout, c'était pas juste un truc de dégradé pour fabriquer de la mémoire, c'était un chargé de tout ça, quoi. Et qu'elle m'ait laissé faire aussi, c'est incroyable.
C'est sûr.
Et qu'on soit si bien entendu, et que c'est... Du coup, il y avait vraiment un truc... D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai mise sur mon site parce que j'y tiens tellement, mais la photo est extrêmement déceptive. Enfin, ça dit rien de tout ça, pour le coup.
C'est dur à te raconter, à tout mettre, parfois, justement, dans une photo ou même dans un projet. C'est dur de... Mais c'est vrai que le bateau Love Love est très parlant déjà de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il contient peut-être pas toutes ces histoires de l'ancienne propriétaire, de ton travail sur le chantier, de ces rencontres après un peu au petit bonheur de la chance, aux hasardeuses ou chanceuses avec Wall Street ou avec Lehman Brothers, etc., avec tous ces médias, etc., qui te courent après, etc. Après, mais tu sens qu'il est chargé des... Tu sens qu'il a... qu'il est né sous une bonne étoile.
Mais en fait, je crois que c'est aussi une... c'est pas des trucs auxquels tu penses avant, mais des fois, tu fais des boulots super médiagéniques et en fait, ça, tu peux pas le savoir avant. Mais je pense que l'image, elle est tellement évidente, forte et métaphorique, tu vois, genre émotionnelle ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, elle draine tellement de choses comme ça, juste cette image-là, qu'en fait, elle est très facilement appropriable.
Ouais, je pense, ouais.
Et que... Du coup, il y a cette sorte de, d'hyper-cohérence. C'est pour ça, je pense qu'elle est d'ailleurs autant reprise et autant...
Ouais, je pense aussi, ouais.
C'est tellement métaphorique, quoi, que...